On est ensemble ici depuis le Festival Musique Métis, depuis les Chez Magélis jusqu'à 20h ce samedi. C'est un véritable plaisir de vous accompagner au cœur de ce festival mythique ici à Angoulême. C'est la 46e édition tout de même cette année, avec encore une fois une très très belle affiche, alors qu'on entend les Lehman Brothers qui arrivent quasiment, je pense, à la fin de leur set. Ils viendront nous rejoindre tout à l'heure à l'antenne. C'est Seb, dis-moi, One Kim qui va démarrer dans quelques minutes.
Exactement, One Kim qui démarre dans 4 minutes sur la scène du jardin.
Et à 19h, je crois que ce soir vous allez pouvoir applaudir Daphné Kitaras.
Tout à fait.
Je crois que l'horaire est à peu près bon. Nous allons parler à nouveau littérature. On a un petit peu expliqué l'opération de cette année et présenter les différents auteurs présents avec Bernard Magny il y a quelques minutes. Et Valérie, nous recevons justement l'une de ces autrices présentes ici en région depuis déjà quelques jours pour cette édition 2022.
Donc on a le plaisir d'accueillir Ella Fekki qui vient nous parler de son premier roman. Bonjour Ella.
Bonjour Valérie.
Bonjour, bienvenue à l'antenne d'Attitude.
Merci.
Bon, comment allez-vous ?
Je vis des moments vraiment très agréables pendant ce festival.
Vous êtes ici en Charente depuis combien de temps ?
Je suis arrivée hier.
Ah oui, d'accord. Ah oui, donc vous découvrez juste le festival et l'ambiance ici depuis hier.
Tout à fait.
Bien. Vous avez eu l'occasion déjà d'effectuer des rencontres ?
Il y a eu la première rencontre tout à l'heure à 16h. Donc au festival, nous étions trois auteurs.
D'accord.
James Noel et Seda Fesser et moi-même autour de la thématique coup d'état et coup de foudre.
Ah bon, on va en parler un petit peu.
Effectivement.
Exactement. C'est la première fois que vous venez dans la région ?
C'est la première fois.
Bien, alors bienvenue.
Merci.
Et Ella Fekki, vous êtes née à Tunis, vous êtes professeure de lettres et formatrice d'enseignants, et donc vous avez publié, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, en 2020, un roman qui s'appelle Noces de Jasmin. C'est votre premier roman, et il prend place dans à l'intérieur de la révolution tunisienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre roman, justement ?
Oui, alors c'est mon tout premier roman, je l'ai écrit à Madagascar, où j'enseignais... jusqu'à juin dernier.
D'accord.
Donc je suis de retour en France depuis juillet. Et c'est un roman donc qui parle de trois semaines qui précèdent la chute du régime de Ben Ali. Et j'avais très envie, lorsque je vivais à Madagascar, de me replonger en fait dans le pays de mon enfance, la Tunisie, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ai un peu cherché l'entrée. Et puis en discutant avec une auteure malgache des révoltes successives à Madagascar, je me suis interrogée sur ce qui déclenche en fait une révolution. Et puis à cette trame historique se sont ajoutées plein d'autres thématiques. Donc j'ai mis beaucoup de moi-même. En fait.
Et c'est un roman que vous avez donc choisi de ne pas écrire à la première lettre, la première
personne,
voilà. Mais vous avez choisi de l'écrire sous forme de roman choral.
C'est cela.
Pourquoi ce choix ?
Alors c'est un roman choral en effet, polyphonique, où plusieurs voix racontent la révolution, plusieurs personnages. Donc on suit le destin de quatre personnages, Mehdi, un journaliste, Essia, une jeune femme que Mehdi a rencontrée un peu plus tôt, Yassine, le père d'Essia, donc une autre génération, et le personnage de la cellule, puisque je fais parler les murs, d'une prison. Et je souhaitais en fait raconter de l'intérieur en fait la révolution, mêler l'intime au politique et permettre de passer par des histoires singulières pour raconter la grande histoire. Donc c'était vraiment aussi le dessin de ce projet littéraire.
D'accord.
Okay. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire, ou est-ce que vous écriviez déjà avant ?
J'écrivais avant, mais des petits textes, jamais de fiction. C'était plutôt des poèmes, des petits textes dans un carnet de voyage ou des pensées. Et c'est vraiment la première fiction que j'écris.
Oui, là, c'est vraiment un terrain fertile. Vous avez dit, là, au moins, je peux dire des choses, effectivement. Et vous avez consulté des personnes pour avoir les différents points de vue. C'était des ressentis personnels. C'était un mélange de tout ça.
C'était... Plutôt, c'est un mélange en fait de plusieurs sources. Par exemple, pour le personnage de la cellule, j'ai relu des essais que j'avais découverts en arrivant en France, parce que j'ai grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 18 ans.
D'accord.
Je suis arrivée en France et j'ai découvert en fait les tortures sous le régime de Ben Ali par la lecture d'essais qui étaient censurés en Tunisie.
Ah oui.
Notamment notre ami Ben Ali et puis Tunisie, le livre noir de Reporters sans frontières. Et je les ai relus pour créer le personnage de la cellule. Après, pour les autres personnages, je me suis inspirée de mon père en partie pour le personnage de Yacine, mais plus pour les pensées et la façon de percevoir le monde plutôt que par les actions, c'est-à-dire que toutes les actions qui sont vécues par les personnages, c'est de la fiction, c'est inventé. Mmh. Essia est une franco-tunisienne, donc je suis franco-tunisienne, je suis allée rechercher des ressentis personnels et des souvenirs d'enfance. Mmh. Et puis pour le personnage de Mehdi, c'est un personnage complètement inventé à partir de portraits d'écrivains, d'activistes, de blogueurs que j'ai réunis sous forme d'une sorte de personnage.
C'est vrai que la révolution tunisienne, donc la révolution de Jasmin, on avait pu la suivre de loin même en n'habitant pas sur place, parce que les réseaux sociaux s'étaient beaucoup, beaucoup mobilisés, il y a eu beaucoup de paroles libérées, de récits qui s'étaient entrecroisés. Justement, 11 ans plus tard, quels sont les changements que cette révolution a inspirés?
C'est vrai que c'est une question un peu complexe, puisque pour pouvoir vraiment dire ce qu'il en est aujourd'hui de la Tunisie, il faut, je pense personnellement, que pour prendre le pouls du pays, il faut y vivre, et je n'y vis plus depuis un moment, donc j'y retourne régulièrement.
Oui, vous y allez, oui.
Et c'est plutôt... Il y a vraiment des ressentis très différents, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quand même un délitement économique, une politique aussi, du désespoir qui est présent, bien sûr, 11 ans après, mais en même temps, une liberté quand même aussi de
parole.
De parole, oui, tout à fait. Je l'ai ressenti en fait en allant présenter notamment mon livre dans les différents lycées, en écoutant les jeunes parler.
C'est la question que j'allais... Ouais, excusez-moi. C'est la question que j'allais vous poser. Comment a été perçu votre livre là-bas?
Alors c'est intéressant parce que j'y suis allée en février, j'ai rencontré des lycéens et des professeurs de lettres qui l'ont proposé dans les différentes villes en Tunisie. Les adultes, ou plutôt les professeurs, m'ont dit c'était intéressant pour eux de le lire à cette période-là, parce que une professeure notamment m'a dit ça nous rappelle pourquoi on a fait la révolution, en fait, les raisons de ce soulèvement. C'était vraiment ce qui est ressorti de cet échange. Et puis les jeunes, en fait, ils étaient tout petits quand la révolution a lieu.
Oui.
Et donc, ça leur a permis d'avoir un regard par le biais de la fiction, justement, sur cette révolution. Finalement, on entend un peu de... Enfin, on a beaucoup d'avis différents en Tunisie aujourd'hui. Donc, c'était aussi, pour eux, je pense, intéressant de le replacer dans ce contexte-là.
D'accord.
Et puis c'est vrai que quand les informations sont filtrées, on va dire, par les pouvoirs publics, par les médias, souvent la fiction permet aussi de faire passer un ressenti, une certaine vision de l'époque. Et justement, en parlant de vision de l'époque, vous qui avez vécu à Madagascar qui aussi a connu pas mal de petits mouvements sociaux, révolutions et guerre d'indépendance, est-ce que vous voyez des similitudes entre la façon dont les choses s'articulent quand les gens aspirent à une vie meilleure, à renverser le pouvoir? Est-ce qu'on peut trouver des similitudes?
Je pense oui qu'il y a des similitudes. Moi, je les ai perçues par les échanges que j'ai pu avoir avec le lectorat malgache, puisque quand il est sorti, le roman a été publié, je vivais encore à Madagascar. Donc il y a eu vraiment des échanges intéressants où certains lecteurs ont établi des parallèles avec les révoltes successives qu'il y a eu justement à Madagascar, en comparant des fois des mécanismes qui ressemblent en fait à ce qui s'est passé pour la révolution. Et en même temps, c'était intéressant de les entendre mettre des mots sur ce qui avait pu échouer en fait. Et tous ces déclencheurs partent souvent justement d'un nom justement à la dignité, lié en même temps à un cri de la faim, puis aussi une position des intellectuels, bien sûr, aussi.
D'accord, effectivement, c'est un tout. Ça se ferait presque de quoi écrire un nouveau roman, d'ailleurs.
Ah oui.
Et donc la rencontre que vous avez faite tout à l'heure, en fait, c'était sur quel thème vous avez dit
C'était coup de foudre et coup d'état.
Coup de foudre et coup d'état, effectivement. C'était totalement dans le thème.
Dans le thème du livre.
Et vous avez discuté avec, vous avez pu échanger avec l'auteur de quel livre? C'était sur quoi?
Alors il y avait James Noel, qui est poète.
Haïtien,
qui a écrit un roman qui s'appelle Belle Merveille et plusieurs recueils poétiques. Donc, et Sadef Esser, qui a écrit Trésor National et qui rend hommage à une icône du cinéma en Turquie. Et en même temps, on a en arrière-fond les trois coups d'État en Turquie. Et c'était très intéressant de pouvoir croiser nos regards en fait, sur les différents contextes des trois pays.
C'est un exercice que vous referiez éventuellement?
Avec grand plaisir.
Il y aura de toute façon d'autres rencontres. Ce soir, vous serez à 4, nous a expliqué Bernard, pour pouvoir justement, là encore une fois, aborder un autre thème.
Oui, tout à fait. Le thème, c'est le pays d'avant. Donc, on va parler justement il y a la Corée, la Tunisie,
l'Algérie. Avec Lilia.
Voilà, tout à fait. Et donc, le pays d'avant, parce que justement, dans nos romans, nous retrouvons le pays de l'enfance et puis le pays... de nos parents, de nos grands-parents aussi.
Mais des regards de femmes.
Avec des regards de femmes, tout à fait.
Avec les regards de femmes qui diffèrent quand même souvent beaucoup des regards des hommes, je pense.
Oui, parce que forcément on écrit d'où l'on est et d'où on vient, donc il y a une sensibilité aussi qui va se superposer au regard que l'on a sur la grande histoire et nos histoires singulières.
Oui, et puis chacune avec votre, vos racines, votre richesse culturelle.
Oui, avec notre métissage aussi.
Puis surtout vous qui avez beaucoup voyagé.
Oui.
Vous avez travaillé dans plusieurs pays, c'est ça?
Alors j'ai travaillé, j'ai enseigné il y a plusieurs années avant d'entrer dans l'éducation nationale. Donc, j'étais professeure de FLE dans les alliances françaises de Bombay, Chennai, puis Guayaquil, donc Inde et Équateur. Ensuite, j'ai enseigné en France. Et puis, je suis, au bout de 6 ou 7 ans, je suis partie enseigner 3 ans à Dakar, au lycée Jean Mermoz.
Oui.
Et ensuite, à Madagascar, au lycée français aussi.
Et du coup, maintenant que vous êtes revenue en France, est-ce que vous avez des petits projets pour la suite, que ce soit en littérature ou ailleurs d'ailleurs?
Alors, j'ai des projets littéraires et je suis en train d'écrire le deuxième roman.
Ah d'accord.
Voilà.
Donc vous le faites.
Voilà, je continue.
On vous reverra peut-être bientôt.
Avec grand plaisir. Avec un projet ou d'une histoire croisée entre justement l'histoire coloniale de la Tunisie et puis de Madagascar.
Ah, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire effectivement.
Oui, parce que j'ai découvert que une des reines, donc la dernière reine de Madagascar, la reine Rana Vallone III, avait été exilée à Alger et avait fait un séjour à Tunis.
Ah, d'accord.
Donc, voilà. Un lien entre tous ces pays.
Tout à fait. D'accord.
Sur fond de colonisation, qui est un sujet aussi avec beaucoup de choses à dire, effectivement.
Ouais. Donc vous allez lier ces deux cultures pour poser l'histoire de votre prochain roman.
Oui, alors j'ai pas encore une structure encore claire, mais avec l'idée d'avoir un regard sur les histoires d'avant, pour le coup, et puis un ancrage contemporain aussi.
Bien. La richesse de ces rencontres, ça va être là peut-être dès ce soir de continuer d'aller au contact du public et d'échanger. C'est quelque chose à laquelle vous êtes déjà familière ?
Oui, j'ai eu plusieurs rencontres avec des publics différents depuis 2 ans. J'ai participé à plusieurs aussi festivals ou tables rondes ou salons du livre et c'est un exercice qui me plaît beaucoup et puis une rencontre qui me plaît beaucoup parce que le regard du public et les lectures aussi que peuvent avoir les modérateurs sont toujours très riches pour nous puisqu'on ne voit pas toujours aussi toutes les subtilités des fois de ces interprétations-là. Quand on écrit, on est plongé dans l'écriture et c'est une belle découverte aussi d'avoir la réception des publics aussi.
Quel a été le déclic pour démarrer ce premier livre il y a quelques temps? Quel a été le fait qui vous a poussé à dire « Allez, je m'y mets, je me lance ».
Alors, c'était... j'avais envie d'écrire un roman depuis longtemps. Le déclic, ça a été, je pense, le fait d'être à Madagascar à un moment où j'avais ces échanges assez passionnés avec Michel Rakoutoussen, justement, cette romancière malgache. Et en même temps, donc il y a eu cette rencontre et puis une nostalgie aussi du pays natal, parce que Madagascar, c'est à 12-13 heures de vol de Tunis. Et puis l'envie de replonger aussi dans le pays de mon enfance par l'écriture, parce que le roman va au-delà en fait du contexte révolutionnaire. Il y a aussi beaucoup de chez les personnages de souvenirs de l'enfance. Et donc il y a aussi cette nostalgie qui imprègne l'écriture.
Le parfum du jasmin peut-être
aussi.
Parallèlement à vos souvenirs et à votre culture, il y a un travail de recherche pour contextualiser, pour là forcément cette révolution où vous êtes référé à des ouvrages, à un travail de recherche en bibliothèque. Comment ça s'est déroulé?
Alors, pour la documentation,
oui, documentation.
Pour la révolution, par exemple. J'avais en fait un classeur où j'avais archivé toutes les coupures de presse que j'avais amassées pendant la révolution de janvier à mars 2011. Donc je suis retombée sur ce classeur. Ça a été aussi un des déclics en fait de l'écriture pour l'écriture du roman. Donc je les ai relus. Je me suis constitué un petit dossier de presse. Ça m'a permis aussi d'avoir une ligne directrice pour écrire. Donc j'avais vraiment envie d'arrêter le roman au 15 janvier 2011 et donc de me concentrer sur cette période. Pour la cellule, comme j'ai dit, je me suis référée à des essais, et pour toute la partie du régime de Ben Ali. Et ensuite, pour la lecture de l'histoire sous Bourguiba et l'indépendance, là c'était plutôt. Je suis allée rechercher des petits films, par exemple de l'arrivée de Bourguiba en Tunisie au moment de l'indépendance. J'ai relu aussi un roman que j'aime beaucoup d'Albert Memmi qui s'appelle Le Pharaon et qui raconte aussi l'indépendance de la Tunisie et puis le parcours de Bourguiba.
D'accord.
Voilà, et puis après, bien sûr, il y a les personnages. Pour construire les personnages, aussi le ressenti, les souvenirs personnels, et puis les échanges aussi avec mon entourage proche à Tunis. Mon père, des amis de mon père.
Oui, c'est important d'avoir cette vision. Oui. Voilà,
il y a une grand-mère proximité. Aussi, je crois.
Une grand-mère qui ressemble à la mienne. Et, la complicité entre la petite fille et la grand-mère sont mes souvenirs d'enfance. Et puis l'idée, c'est quand même de, même si c'est un événement historique, la révolution, c'est de l'ancrer dans l'existence. Et qu'il y ait vraiment cette dimension
familiale,
intérieure, intime.
Oui, d'ailleurs, de ce que j'ai compris, vous alliez quand même assez loin dans l'intimité aussi des personnages. Est-ce que ça n'a pas été un problème, ça, quand le roman est paru en Tunisie?
Les personnages racontent leur sensualité, ouais. Il y a de l'érotisme, et je voulais pas me censurer justement dans cette écriture. La finalité étant vraiment de parler des libertés, donc la révolution, l'émancipation politique d'un peuple, le mouvement, et bien forcément aussi le raconter l'émancipation de l'écriture par le récit des corps en fait. Et le fait de s'autoriser à raconter le désir et l'érotisme. Et je ne savais pas trop comment cela allait être reçu en fait par le lectorat en Tunisie. Puis en fait, ça n'a pas posé de problème. Et je pense que même en découvrant de plus en plus de textes qui sont ancrés en fait en Tunisie ou ailleurs, dans d'autres pays du Maghreb ou d'autres pays arabes, c'est un mouvement, je pense, qui se retrouve chez d'autres auteurs. Donc c'était vraiment finalement pour moi agréable de voir qu'il y avait en fait cette liberté aussi
qui était totalement acceptée, quoi.
Tout à fait. Mmh. Et par toutes les générations en fait.
Oui,
c'est ce qui était intéressant
aussi.
Oui,
bien sûr.
Bien, on va vous souhaiter un bon festival, surtout de très bonnes rencontres.
Merci beaucoup.
De bons partages autour de vos ouvrages respectifs.
Donc on rappelle Noce de Jasmin, paru en 2020. Et qu'on peut retrouver donc sur le festival.
Absolument, tout à fait.
La bibliothèque de la...
Les éditions qui vous ont permis de publier ce livre ?
C'est donc la maison d'édition, c'est Jean-Claude Lattès. Et le label, c'est La Grenade, donc qui existe depuis 2 ans à peu près, et qui a été en fait créé par Maïr Guven, qui est un auteur aussi, qui a écrit Grand Frère, qui a eu le concours du premier roman il y a quelques années. Donc il a créé en fait ce label autour des nouvelles voix, des voix d'ailleurs, et pour donner aussi la chance aux auteurs d'un premier roman de se faire connaître.
Très bien. Avant de vous libérer, comment ça s'est passé justement, parce que le fait d'écrire et d'avoir un projet, mais de se faire publier, d'être reconnu par une maison d'édition, c'est une autre démarche. Ça a été assez facile?
Alors j'ai écrit le premier jet sans contrat. Oui. Donc, de janvier à août 2019 à peu près. Et puis ensuite ça a été un concours de circonstances, parce que nous avions reçu en fait en janvier 2019, à peu près au moment où j'ai commencé à écrire, Maïr Guven justement en résidence au lycée français Tananarive et à l'Institut français. Et donc il n'était pas éditeur encore à l'époque, et il a créé son label en juillet-août 2019. Il avait ce projet à ce moment-là, et donc il savait que j'écrivais mon premier livre, et ça s'est en fait enchaîné de cette manière-là. Je lui ai dit que j'avais fini mon premier jet, et puis la directrice de la maison d'édition, Véronique Hardy, a lu le manuscrit, et le contrat a été signé en septembre.
Vous continuez à enseigner
Oui. Oui.
Et est-ce que ça a changé du coup le regard de vos étudiants par rapport au professeur que vous êtes?
Oui, alors je continue à enseigner au collège et à l'université, où j'ai les professeurs stagiaires, débutants, master de l'éducation.
Oui.
Et en fait, avec les étudiants et les professeurs stagiaires, on n'a pas. Moi, je sais que j'ai toujours cette pudeur de ne pas forcément me présenter comme auteur. Je dissocie les casquettes, en fait, les postures. Et les étudiants n'ont pas forcément questionné dessus, mais plus peut-être vers les derniers mois de cours. Les collégiens, forcément, ils tapent votre nom sur Google, donc ils trouvent ça très vite.
Aujourd'hui, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc, bien évidemment, ils m'ont posé des questions. Donc, j'ai répondu à leurs questions sur cette posture d'écrivain, enfin, ce que je faisais à côté. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça a changé ma façon d'enseigner aussi. Enfin, c'est. J'expérimente en fait des ateliers d'écriture avec les collégiens, d'autres, et une façon en fait d'ancrer l'écriture pour eux dans l'existence justement, et de sortir un petit peu des exercices scolaires normés pour qu'ils prennent du plaisir à écrire.
D'accord. Avez-vous perçu une différence, vous qui avez donc enseigné en Inde, au Sénégal, en fait, quelle est la différence entre les élèves en Inde, au Sénégal, et les élèves français? Est-ce qu'il y a une différence?
S'il y a une différence, elle est culturelle. Mais sinon, après, en termes d'envie d'apprendre, je pense que ça dépend de la posture de l'enseignant, en fait, beaucoup plus que des élèves eux-mêmes, en fait, la façon dont on propose aussi une appétence pour la littérature ou l'écriture. En Inde, j'avais 24 ans quand j'ai enseigné. J'avais des étudiants c'était en Alliance française. J'avais des étudiants qui avaient entre 20 et 35 ans qui apprenaient le français. Donc là, c'était plutôt des jeunes adultes ou des adultes qui apprenaient le français pour leur métier très souvent. Donc c'était pas tout à fait
le même public.
C'était pareil en Équateur. Et puis ensuite, pas tellement en fait. Au Sénégal et à Madagascar, c'était des élèves du lycée français. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un brassage culturel très fort en fait dans le lycée français.
Oui.
Avec des élèves de provenance très différentes.
Oui, parce que ce sont des enfants plutôt d'expatriés, peut-être.
Oui, des enfants aussi qui sont issus des familles sur place. Mais on a parfois peut-être aussi des métissages très différents, mais c'est intéressant. Et puis en France, en fait, aussi, finalement, quand on interroge aussi les élèves sur leurs envies d'écrire, moi, je m'en suis rendu compte cette année, ou puis même les années où j'enseignais en région parisienne, ils vont rechercher aussi dans leurs différentes appartenances. Enfin, je trouve ça intéressant. Et en soi, pour moi, un élève ne diffère pas tellement d'un pays à l'autre, en fait. C'est plus après les références culturelles ou une culture scolaire peut-être différente selon les pays, parce qu'il y a une éducation qui colle à une culture, par exemple, tout simplement.
D'accord. Merci beaucoup.
De rien.